Le lendemain, à mon réveil, je regardais autour de moi. Ma couchette, faite de toutes les couvertures du voyage, se trouvait dans une grotte, ornée de magnifiques stalagmites, et dont le sol était recouvert d'un sable fin. Aucune torche, aucune lampe n'était accrochée aux parois, pourtant il y régnait une demi-obscurité, et une clarté inexplicable venait du dehors. Me demandant si j'étais éveillé ou si je rêvais, je quittai ma couche et me dirigeai vers la sortie de la grotte. La mer ! Une mer immense, en effet, s'étendait sous mes yeux. « Oui, répondit mon oncle, qui m'ayant rejoint se trouvait à mes côtés. La mer Lidenbrock. Et j'aime à le croire, aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et le droit de lui donner mon nom. » C'était une mer immense qui s'étendait au-delà des limites de la vue. Le rivage, largement échancré, offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin parsemé de petits coquillages. Une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré et quelques embruns m'arrivaient au visage. Sur cette grève légèrement inclinée, venaient mourir les contreforts de rochers énormes qui montaient en s'évasant à une incommensurable hauteur. Quelques-uns déchirant le rivage de leur arête aiguë formaient des caps et des promontoires rongés par le ressac. Plus loin, l'œil suivait leur masse nettement profilée sur le fond brumeux de l'horizon. C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais désert et d'un aspect effroyablement sauvage. Si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer, c'est qu'une lumière spéciale en éclairait les moindres détails. Non pas la lumière du soleil, avec ses faisceaux éclatants, ni la lueur pâle de la lune, mais une clarté qui, par sa diffusion tremblotante, sa blancheur claire et sèche, accusait une origine électrique. La voûte suspendue au-dessus de ma tête, le ciel si l'on veut, semblait faite de grands nuages, vapeurs mobiles, qui par l'effet de la condensation devaient à certains jours s'abattre en pluie torrentielle. Nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation. Je connaissais bien par les récits des voyageurs certaines cavernes célèbres, mais aucune ne présentait de telles dimensions et mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité. Toutes les merveilles qu'elle offrait, je les contemplais en silence. Je croyais assister dans quelques planètes lointaines à des phénomènes dont ma nature terrestre n'avait pas conscience. Je regardais, je pensais, j'admirais avec une stupéfaction mêlée d'un certain effroi. « Te sens-tu la force de te promener un peu ?» me demanda mon oncle. Je pris son bras et nous commençâmes à côtoyer cet océan nouveau. Sur la gauche, des rochers abrupts s'entassaient les uns sur les autres. Sur leurs flancs se déroulaient d'innombrables cascades et des ruisseaux coulaient doucement vers la mer. Parmi eux, je reconnus notre fidèle compagnon de route, le Hans Beach, qui venait se perdre tranquillement dans cet immense réservoir commun, comme s'il n'avait jamais fait autre chose depuis le commencement du monde. « Il nous manquera désormais, » dis-je avec un certain regret. « Bon, » dit le professeur, lui ou un autre. Je trouvais la réponse un peu ingrate. Mais à ce moment, mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À 500 pas au détour d'un promontoire, une forêt apparut à nos yeux. Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers. Les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage et ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdres pétrifiés. C'était une forêt de champignons gigantesques, haut de 30 à 40 pieds. La lumière ne parvenait pas à percer la voûte qu'il formait, et lorsque nous y pénétrâmes, un froid mortel nous saisit. Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons. Plus loin s'élevaient par groupes d'autres arbres au feuillage décoloré. C'étaient les humbles arbustes de la terre, mais ayant atteint ici des dimensions phénoménales. Des lycopodes hauts de 100 pieds, des sigillaires géantes, des fougères arborescentes, grandes comme les sapins des hautes altitudes. « Étonnant ! Magnifique ! Splendide ! » s'écriait mon oncle. « Voilà toute la flore de la seconde époque du monde étalée sous nos yeux. Jamais botaniste ne s'est trouvé à pareille fête !»« Vous avez raison, mon oncle. La Providence semble avoir voulu conserver dans cette immense serre des plantes antédiluviennes que les savants ont tant de mal à reconstituer. Tu dis bien, mon garçon, c'est une serre. Mais tu dirais mieux encore en ajoutant que c'est peut-être aussi une ménagerie.
Une ménagerie ? Répétai-je, subitement inquiet.
Vois cette poussière que nous foulons aux pieds, ces ossements épars sur le sol. Je m'étais précipité sur ces débris séculaires. Je mettais sans hésiter un nom à ces os gigantesques qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés. Voilà la mâchoire inférieure du mastodonte. Voilà les molaires d'un dinotérium. Voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'au plus grand de ces animaux, au mégatérium. Mais si ces animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines, qui nous dit que l'un de ces monstres n'erre pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces rocs escarpés ? À cette idée, j'interrogeais, non sans effroi, les divers points de l'horizon, mais aucun être vivant n'apparaissait sur ces rivages déserts. Nous étions bien les seules créatures vivantes de ce monde souterrain, et je tournais mes regards vers cette mer immense qui s'étendait sous mes yeux. Je cherchais à percer les brumes lointaines pour découvrir où finissait cette mer.
« Nous le saurons bientôt. »«
Vous ne comptez pas retourner ?»«
Retourner ? Ça par exemple, nous allons continuer notre voyage au contraire. »
J'avoue que je ne vois pas comment nous pourrions pénétrer sous cette plaine liquide.
Je ne compte pas m'y précipiter la tête la première.
Mais si les océans ne sont à proprement parler que des lacs, puisqu'ils sont entourés de terre, à plus forte raison, cette mer intérieure se trouve-t-elle circonscrite par le massif granitique, et sur l'autre rivage, je suis certain de trouver de nouvelles issues. Dès demain, d'ailleurs, nous embarquerons.
Et sur quel bâtiment prendrons-nous passage ?
Ce sera un radeau, mon garçon.
Un radeau est aussi difficile à construire qu'un navire, et je ne vois pas...
Tu ne vois pas, Axel ? Mais si tu écoutais, tu pourrais entendre.
À grands coups de marteau, en effet, Hans s'était déjà mis à l'ouvrage. Il a déjà fait tomber des arbres sous sa hache.
Les arbres étaient tout abattus.
Viens et tu verras. Après un quart d'heure de marche, j'aperçus Hans au travail. Un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable. Il était fait de poutres d'un bois particulier et un grand nombre de madriers jonchaient littéralement le sol.
Le sort en était jeté. Le lendemain, nous nous lancerions sur la mer Lidenbrock.
Le 13 août, on se réveilla de bon matin. Un mât fait de deux bâtons jumelés, une vergue formée d'un troisième et une voile empruntée à nos couvertures composaient le gréement du radeau. À 6 heures, le professeur donna le signal d'embarquer et Hans n'eut plus qu'à s'installer au gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant. Au moment de quitter le petit port, mon oncle, qui tenait à sa nomenclature géographique, voulut lui donner un nom, le mien, entre autres.
« Moi, lui dis-je, je vous propose celui de Graüben. »
« Allons pour Port Graüben, approuva mon oncle. »
Et voilà comment le souvenir de la filleule de mon oncle se rattacha à notre aventure. La voile fut orientée et nous débordâmes rapidement. La brise soufflait du nord-est. Nous filions vent arrière avec une extrême rapidité et mon oncle fut dès lors convaincu que nous ne tarderions pas à aborder l'autre rive. Vers midi, des algues immenses vinrent onduler à la surface des flots. On pouvait en déduire qu'il y avait une vie dans cette mer souterraine, et Hans prépara un hameçon à l'extrémité d'une corde. Il l'amorça avec un petit morceau de viande et le jeta à la mer. Pendant 2 heures, il ne se produisit rien, mais brusquement une secousse. Hans tira la ligne et ramena un poisson qui se débattait furieusement.
« Un esturgeon ! » m'écriai-je.
Le professeur regarda attentivement l'animal et ne partagea pas mon opinion. Cet animal appartenait bien à un ordre où les naturalistes ont classé l'esturgeon, mais il avait la tête plate. Sa partie antérieure était couverte de plaques osseuses.
« Nous aurions pris un habitant des mers primitives ?»«
Oui, répondit mon oncle. Un Pterychtis.
Et celui-ci offre une particularité qui, dit-on, se rencontre chez les poissons des eaux souterraines. Il est aveugle. » Ce pouvait n'être qu'un cas particulier et nous recommençâmes l'opération. 2 heures après, nous avions pris une grande quantité de Pterychtis, ce qui nous permit de renouveler avantageusement nos provisions. Le voyage continuait et cette mer paraissait bien plus immense que nous ne l'avions supposé au début. La nuit, nous dormions, roulés dans nos couvertures, et dans la journée, mon oncle ne cessait d'arpenter le radeau, sa lunette à la main, pour observer à tout moment la ligne embrumée de l'horizon, sur laquelle aucune côte ne se montrait. On le sentait de plus en plus impatient. Pourtant, le radeau marchait à bonne vitesse. Mais nous avancions sur un plan horizontal et lui ne songeait qu'à descendre.